Tout ça, franchement, c'est des mots creux quand on appartient au monde du travail. C'est-à-dire quand on n'a que ses deux jambes et ses deux mains pour vivre, qu'on n'a pas de capitaux, qu'on n'a pas de moyens de production, hein, on est souverain de rien du tout quand on appartient à la classe des exploités. On est dépendant et il faut qu'on trouve un patron qui veuille bien nous embaucher, qui veuille bien nous donner la possibilité d'être exploité pour gagner notre vie. Mais non, mais c'est ça, tu vois. Et souvent, il ne suffit pas de traverser la rue. Tu vois, souvent, c'est bien plus compliqué que ça. Et combien de travailleurs, moi j'en connais, ils ont licencié deux, trois fois, ils ont pris leur famille sous le bras, ils ont fait 500 km dans un sens, 600 km dans un autre sens, ballottés comme ça, traités comme des pions. Hein, et c'est ça la vie des travailleurs. C'est ça, c'est d'être mené effectivement par le bout du nez, par celui qui justement a le pouvoir sur toi, parce qu'il a les capitaux, lui, et il peut vivre de ton travail. Voilà, donc, et partant de là, c'est le premier combat. Si on veut être souverain de quelque chose, il faut déjà avoir la maîtrise de notre propre vie, sinon c'est de la blague. Je veux dire, on n'arrive même pas, on est dans la classe ouvrière, il y a même des femmes et des hommes qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Enfin, donc après, on peut parler de souverainisme, mais franchement, c'est quand même des idées qu'on nous met dans la tête pour nous endormir, tout ça.
qui attaquait de tous les côtés, sans passer, sans compter aussi les nobles à l'intérieur de la France. Bon, c'est sûr que c'est souvent comme ça, hein, quand il y a un gouvernement populaire, les autres sont assez forts. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir justement, vous parliez du Brésil, maintenant le Venezuela, avant ça a été le Chili, tous les pays qui ont essayé d'avoir un régime plus populaire, eh bien, finalement ils ont été écrasés par les capitalistes. Et en particulier par les États-Unis. Alors vous savez que la statue de la liberté, je ne l'ai jamais digéré, c'était celui de la liberté dont on a fait cadeau aux États-Unis, parce que ce qui est pour étouffer les autres peuples, ils sont bien là. Ils ont déjà tué pas mal les Indiens, et après avoir tué les Indiens, ça ne sont pas restés.
Alors c'est vrai que nous, la révolution russe, pour nous, ça reste une référence, quoi. Ça reste quand même des événements les plus importants, parce que ça a démontré la capacité de la classe ouvrière, du monde ouvrier, à changer, à prendre le pouvoir, et puis à commencer à réorganiser justement la société. Et voilà, nous on pense que l'expérience au Chili ou au Venezuela, c'est différent de ce point de vue-là. Le monde ouvrier n'a pas été, il n'y a pas eu de soviète, il n'y a pas eu cette démocratie ouvrière qui a permis que non seulement de chasser le tsar, mais aussi de chasser les capitalistes en général, quoi, et d'essayer de réorganiser la société en fonction des besoins. Après, le problème qu'ils ont eu, c'est la force d'une révolution ouvrière, c'est sa capacité à s'étendre, à entraîner d'autres travailleurs, d'autres pays. Et là, ils ont eu ce problème-là en Russie, c'est que leur révolution s'est heurtée effectivement à l'hostilité de toutes les puissances qui se faisaient la guerre d'ailleurs avant, à l'hostilité de l'armée allemande, de l'État allemand, de l'État français, anglais, toutes les puissances impérialistes, toutes les puissances qui se faisaient la guerre se sont toutes retournées contre les ouvriers russes qui voulaient changer le monde finalement. Et d'ailleurs, le parti qui s'était porté à la tête de cette révolution était convaincu, Lénine, Trotsky, tous ces révolutionnaires-là, et nous on partage leur point de vue, on ne peut pas changer la société dans un seul pays. Ils étaient convaincus que leur révolution, elle pouvait durer, gagner, mais elle s'étendait. Et se sont heurtés à ce problème-là. Effectivement, à la force des ouvriers russes, c'était que la révolution s'étende en Allemagne, qu'elle s'étende en France, en Italie, que les travailleurs des autres pays reprennent le flambeau et portent la révolution plus loin. La Russie était un pays pauvre, sous-développé, où beaucoup, où le monde ouvrier lui-même était minoritaire. Alors, avec des millions et des millions de paysans qui ne savaient pas forcément lire et pas écrire. Donc ils avaient beaucoup de choses à faire pour moderniser leur pays et permettre un vrai progrès. Ils ne pouvaient pas le faire tout seuls. Donc de notre point de vue, le fait que ça ait tourné sous la forme d'une dictature, c'est peut-être lié aux difficultés qu'ils ont eues. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, on aura les mêmes difficultés si des événements comme ça éclatent? Peut-être pas. Mais en tout cas, nous, on reste convaincus que la force des travailleurs, c'est justement, d'un mouvement ouvrier, c'est cette capacité à s'étendre. Comme la force d'une grève, c'est sa capacité à toucher d'autres parties de la population, d'autres travailleurs. Donc nous, on raisonne comme ça. Et le parti qu'on veut justement essayer de refaire vivre, c'est un parti qui, justement, essaie de se pencher sur le passé, de comprendre toutes les expériences que d'autres ont pu vivre avant nous, de leurs succès, de leurs échecs, et puis pour essayer de réussir quoi, la prochaine fois.
Mais du coup, en fait, en sachant qu'on est en France, qu'est-ce qui va permettre à la révolution de s'étendre? Parce que tout autour, c'est des capitalistes. Enfin, c'est du capitalisme.
Et tout autour, c'est des travailleurs.
Oui, mais vu qu'ils peuvent même filtrer les médias, quoi, tout ce qu'ils veulent, vu qu'ils contrôlent tout, en fait, qu'est-ce qui fait que là, c'est un marché de
carrière? Moi, j'ai envie de dire que tu nous demandes des garanties. Des garanties de victoire, de succès, etc. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que là, tu vois, je l'ai beaucoup dit dans l'introduction, mais c'est sûr qu'on court à la barbarie. tel que c'est parti, tu vois, on court à la barbarie. Cette société, elle l'est déjà. Elle l'est déjà pour plein de gens, et y compris pour nous, qui nous sentons bah, justement appartenir à l'humanité, tu vois. Pour nous, de toute façon, cette voie, c'est la seule voie. C'est effectivement de se battre. Et on sait que dans ce combat-là, il y a besoin d'un parti. Il y a besoin d'un parti, ça c'est une évidence. Je reprends parce que sur l'Algérie, je ne peux pas aller tout à fait jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, si tu veux pas être un manifestant parmi des millions ou des centaines de millions d'autres, c'est-à-dire servir de masse de manœuvre à des forces politiques qui sont étrangères à tes intérêts, qui ne poursuivent pas du tout le même but que le tien, comment tu peux faire ? Tu peux rien faire si tu n'es pas organisé avec des gens qui partagent le même intérêt, le même objectif que toi. Tu peux rien faire. Tu vois ? En face, effectivement, ils sont organisés. Le régime, il est organisé. Il a une armée. L'armée, si elle le décide, elle tire. Elle tire. Il y a un état, ils ont un état-major politique. Eux, ils sont très organisés. Très, très organisés. En plus, ils ont tous les cadres de l'État, ils sont peut-être en concurrence en ce moment les uns contre les autres, ils sont peut-être en train de se tirer entre les pieds, mais enfin, ils ont plein de solutions de rechange. Les exploiter, eux, ils sont pas, encore une fois, ils sont pas préparés. Et si tu restes seul, il faut être organisé et être capable de savoir pourquoi on se bat, quel objectif et comment on doit s'y prendre. Et est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier de l'armée ? Parce que l'armée aujourd'hui, effectivement, elle essaye de faire croire qu'elle a lâché Bouteflika, que finalement c'est elle, c'est par elle que va passer hein, le rétablissement des libertés. Hein. Mais si le mouvement continue, elle peut très bien changer de stratégie, l'armée. Hein. Et comment faire pour qu'effectivement ceux qui se battent aujourd'hui se préparent à ça, à une éventuelle répression ? Peut-être qu'ils se posent la question de comment on fait pour se défendre, comment on fait pour se protéger. C'est toutes les questions là qui concrètes, tu vois, que je pense d'ailleurs qu'il y en a qui se posent cette question aujourd'hui en Algérie. Tu vois, des jeunes, et qui se disent, mais bon, tout ça, il faut qu'on se mette en réseau, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on agisse ensemble pour qu'on puisse peser, etc., etc. Ils essayent peut-être d'aller dans cette direction, mais tu te rends compte là, tout est à faire pour eux. Donc le parti, pour nous, ben, je finis là-dessus, mais le parti, si tu veux, c'est un point d'appui, mais indispensable, si on veut que les travailleurs, ils aillent jusqu'au bout. Surtout que, si tu veux, toute notre vie, quand même, on nous explique que, de toute façon, toi, t'es ouvrier, toi, t'es salarié, toi, t'as pas les compétences pour gérer, t'as jamais fait d'études, tu sais même pas comment ça marche, hein, donc...